Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour à tous et bienvenue au Dipenap Podcast où on parle d'enjeux internationaux et sociaux. Cet épisode est le premier d'une réflexion sur la prostitution qui s'intitule « Pour ou contre l'abolition ». Alors, c'est quoi le mouvement abolitionniste en matière de législation? Qu'est-ce que ça implique et pourquoi? On vous l'explique dans cet épisode. Comme je disais, merci beaucoup, Martine, d'avoir accepté mon invitation, d'être là aujourd'hui. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi en plus.
Un plaisir.
Donc, Martine, pour mettre les gens un peu en contexte, tu es co-autrice du livre « Faire corps » et tu es aussi doctorante en droit. Tu as été ancienne journaliste, donc bienvenue au podcast.
Merci, c'est un plaisir.
Donc, Martine, on s'est rencontrés au panel contre l'exploitation sexuelle qui avait été organisé par Calax. Et de là, je t'ai invitée à venir discuter avec moi parce que je voulais que tu expliques, dans le fond, la différence entre les deux pensées, les deux formes de pensée majeures quand vient le temps de la législation en prostitution.
Oui, c'est vrai qu'il y a deux courants de pensée idéologiques, politiques, et qui sont vraiment différents, souvent même irréconciliables, je te dirais. Donc, d'un côté, on a, et puis ça c'est partout dans le monde, hein, c'est pas propre au Québec ou au Canada, donc d'un côté, on a des personnes qui voient la prostitution comme d'emblée une forme d'exploitation qui est la cause et la conséquence de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Et de l'autre côté, des gens qui pensent que c'est une forme de travail et qu'il faudrait donc lui fournir un encadrement légal pour s'assurer de réduire les méfaits que peut avoir cette pratique, ce travail sur les personnes qui vendent leurs propres services sexuels. Puis quand je dis que ces deux positions-là sont pas interchangeables, c'est que les deux positions militent, appellent des solutions législatives complètement différentes. En gros, je te dirais qu'il y a quatre approches législatives en matière de prostitution partout dans le monde. C'est très rare les pays qui ne légifèrent pas sur la prostitution et il y a grosso modo quatre approches. Il y a d'un côté le prohibitionnisme et à l'autre extrême la légalisation. Entre les deux, il y a deux approches, puis c'est ces deux-là qui sont promus au Canada. Donc, au Canada, il n'y a à peu près personne là, pour vouloir ni le prohibitionnisme, ni à l'autre bout du spectre, la légalisation. Par contre, il y a des gens, des groupes, des femmes et des hommes politiques qui veulent soit le modèle qu'on appelle suédois, nordique, égalité, néo-abolitionniste. Il y a à peu près quatre noms, ce modèle-là, parce que selon où il est adapté, il y a des petites variations. Mais retenons que d'un côté, il y a des gens qui veulent le modèle nordique et de l'autre, il y a des gens qui veulent la décriminalisation complète. Puis pour finir mon exemple de ça, je peux te donner deux pays où qui ont adopté ces régimes-là. Donc, le modèle suédois, ben il est en vigueur au Canada, en France, dans les pays nordiques, d'où son petit nom. Et la décriminalisation, elle, c'est plutôt la Nouvelle-Zélande et l'Allemagne qui l'ont adopté. Fait que c'est à peu près ça le panorama là, de ce de quoi on parle quand on parle de loi entourant la prostitution.
D'accord. Fait que quand même quatre courants de pensée, dont deux au milieu qui se ressemblent un petit peu. Nous, au Canada, comment on décrirait, parce que la prostitution est pas illégal, mais tout ce qui l'entoure est criminel, comme le proxénétisme, puis la sollicitation de services sexuels?
C'est pas tout à fait ça. Ça l'a été pendant longtemps, ce que tu décris, mais en 2014, il y a vraiment eu un changement important de loi au Canada. Donc, le Canada est passé au modèle nordique en 2014. Ça fait que si on s'imagine la prostitution comme une espèce de triangle, alors le triangle est formé des clients, des personnes qui vendent des services sexuels et bien souvent des proxénètes, là, dans une quand même une forte proportion, ou si on élargit, proxénètes, tous les gens de l'industrie, agences d'escorte et tout et tout. Alors, ce que le Canada a décidé de faire, à l'image de plein d'autres pays, comme la Suède, la Finlande, l'Islande, c'est de plutôt mettre l'accent sur les gens qui créent la demande pour de la prostitution. Donc, si on s'imagine la prostitution comme un système d'offres et de demandes, ben plus il y a de demandes, plus il va y avoir d'offres. Et ce que le Canada choisit de faire, c'est de vouloir diminuer la demande. Qui crée la demande? Ben, ce sont les clients. Donc, pour la première fois au Canada en 2014, le fait de vouloir obtenir des services sexuels, donc d'être client, est devenu illégal.
Ça
Par
l'était
contre, ce que
pas
le
avant.
gouvernement a fait, c'est accorder ce qu'on appelle une immunité aux personnes qui vendent leurs propres services sexuels. Donc, c'est assez vrai de dire que la prostitution est illégale au Canada. Par contre, les personnes qui vendent leurs propres services ne peuvent pas être criminalisées. Donc, c'est un peu ça le modèle que le Canada a choisi en 2014.
OK, donc ça veut dire qu'avant, les prostituées pouvaient punies pour avoir
Ah
vendu
oui.
des services sexuels.
Elle l'était beaucoup. Et c'était surtout via une infraction de sollicitation. Quand on regarde les chiffres, là, avant 2013, les personnes qui étaient les plus accusées pour tout ce qui concerne la prostitution, c'était les femmes. Et ça s'est complètement inversé quand on regarde les statistiques déposées par les différents corps de police au Canada. C'est à peu près 98% maintenant des gens accusés en lien avec la prostitution qui sont des hommes. C'était vraiment ça l'idée, c'est de changer le focus, de quelque sorte, en quelque sorte, se dire, on va tenir pour acquis que les femmes qui vendent leurs services sont là, et entendez bien mes guillemets, des victimes, qu'on veut aider à sortir de ce milieu-là, qu'on ne veut surtout pas criminaliser, et on va mettre le focus sur les clients et les proxénètes. Donc, tout ça se fait en parallèle. Puis, il y a une espèce de calcul en criminologie qui dit que ben, moins il y aura de clients, moins il y aura de proxénètes parce qu'il y aura, moins d'argent à faire, si tu me passes l'expression.
Oui, ben c'est une bonne chose. Dans ce cas-là, j'en reviens juste pas que c'est en 2014 qu'on a fait ce changement-là.
Tu trouves ça tôt,
Je trouve ça
tard?
tard. Je trouve ça vraiment tard.
Ah oui?
Ben en fait, on dirait que moi, dans ma tête, ça fait du sens. C'est juste la logique. Ça devrait être la norme que les femmes ne soient pas punies pour ça. Mais en même temps, je sais que c'est pas le cas dans tous les pays. Puis je réalise que au Canada, c'est juste récemment que ça s'est fait aussi.
Mais moi, j'apprécie beaucoup parce que c'est un modèle que je soutiens là, ouvertement et que je défends dans mon essai. Par contre, c'est pas tout le monde pour penser que c'est une bonne chose, ce modèle-là. Puis il faut dire qu'il y a toutes sortes de versions du modèle nordique. Puis la version canadienne, elle est loin d'être parfaite. Parce que ce que beaucoup de gens demandent, c'est plus d'aide à la sortie. Parce que quand il a été imaginé, ce modèle-là, il visait vraiment à aider les femmes qui le souhaitent à quitter la prostitution. C'est un de ses objectifs au modèle. Puis force est d'admettre que presque 10 ans plus tard, il y a vraiment pas grand-chose qui a été fait par les gouvernements pour aider les femmes à sortir de la prostitution. Contrairement, par exemple, en France, il y a des sommes mensuelles qui sont accordées aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution. Puis quand on veut sortir de ce milieu-là, ça prend des sous maintenant, là, et c'est ça qui freine la sortie de plusieurs personnes. Et ben, au Canada, on est loin, loin d'avoir ça, là. Il y a une enveloppe qui avait été accordée en 2014 de 20 millions pour aider les groupes qui aident les femmes. Mais vraiment, c'est pas assez, puis ça n'a pas été renouvelé, alors qu'en France, vraiment, on accorde chaque mois une allocation aux personnes qui souhaitent quitter ce milieu-là. Et je trouve que c'est ça qui manque au Canada en ce moment.
C'est vrai. Tu parlais de critiques tantôt par rapport à ce modèle-là ici qu'on a au Canada ou au modèle nordique. C'est quoi les critiques que tu as régulièrement par rapport au modèle abolitionniste?
Il y en a plusieurs. Puis, tu sais, moi, je tiens à dire que je trouve que le modèle abolitionniste, c'est un peu le moins pire des modèles. Tu sais, pour moi, il n'y en a pas de modèle parfait,
Oui.
mais celui-là, je trouve que c'est un petit peu un compromis parce que si on se ramène à l'idée de la prostitution en soi, je pense que tout le monde va être assez d'accord pour dire que c'est pour une minorité de personnes pour qui c'est une expérience satisfaisante du début à la fin et dont elles sortent sans conséquences. Ça, je pense que tout le monde peut être assez d'accord, peu importe la position politique qu'on défend, je pense que tout le monde peut être d'accord pour dire que les femmes qui ont une expérience satisfaisante du début à la fin et qui sortent de ça et comme si de rien n'était, elles ne sont pas nombreuses. Donc, partant de ça, le modèle législatif qu'on a adopté, c'est un modèle qui peut, en quelque sorte, contraindre ces femmes-là pour qui ça se passe bien, elles souhaitent le faire, elles souhaitent le faire longtemps, elles souhaitent le faire sans stigmatisation, sans aucune contrainte. Il y a des contraintes, c'est-à-dire que les clients sont maintenant criminalisés.
Ouais.
Bon, après, c'est sûr qu'il y a très peu d'opérations policières qui se font et les opérations policières qui se font pas, là. Il y a personne qui descend dans les salons de massage ou qui arrête des vraies personnes. Ça marche par des fausses annonces. Donc, ce qu'on reproche des fois à ce modèle-là, c'est on dit que ça peut mettre à mal la sécurité des personnes qui vendent leurs services sexuels vu que le client est criminalisé. Dans des cas de prostitution de rue, je peux comprendre qu'une femme en situation de prostitution de rue ait peur que son client se fasse arrêter et que ça ait des conséquences sur... Ben, évidemment, elle ne sera pas criminalisée, là. Donc ça, je peux comprendre. Mais sinon, si on parle d'une prostitution typique comme elle se pratique au Québec, elle se pratique à l'intérieur, elle se négocie via des textos. Moi, j'avoue, je vois mal en quoi c'est le fait que le client soit criminalisé puisse mettre à mal la sécurité. Parce qu'on va se le dire, ce qui n'est pas sécuritaire dans la prostitution, c'est la prostitution en soi. Il y a malheureusement des femmes qui sont mortes en situation de prostitution au Québec et elles sont mortes aux mains de clients dans la chambre d'hôtel. Puis ça, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire contre ça.
Parce qu'il n'y a pas de protection.
C'est d'une tristesse infinie. Mais une fois que le client est dans la chambre, il peut arriver des choses très graves, très rapidement. Donc, voilà. Donc, les critiques souvent de ce modèle-là sont sur la sécurité. Mais on peut se dire aussi que, en soi, la prostitution, malheureusement, est un acte qui n'est pas sécuritaire et il est très, très difficile d'améliorer la sécurité des personnes. Puis ça, ben, on a un peu des exemples dans d'autres pays qui ont fait des choix différents. Par exemple, moi, le pays que je connais le mieux, là, je connais très mal la Nouvelle-Zélande, mais je connais quand même assez l'Allemagne, qui, lui, est allé complètement ailleurs. Décriminalisation. Donc, l'autre côté du spectre, là, il y a des gens, beaucoup de gens défendent ce modèle-là au Canada. Ils voudraient qu'on soit dans ce modèle-là. Bien, en Allemagne, ce que ça a fait d'aller en décriminalisation, c'est que ça a fait exploser le nombre de lieux dédiés à la prostitution, des bordels. Il y en a plus de 3000 en Allemagne.
Mon Dieu, c'est beaucoup.
Et ça... Oui, et ça n'a pas empêché, malheureusement, les violences faites aux personnes prostituées. Il y a encore beaucoup, malheureusement, de meurtres de femmes prostituées parce que c'est dans la chambre le problème, c'est avec le client. Alors, même si c'est dans des lieux sécurisés avec des boutons panique, il peut se passer beaucoup de choses entre l'acte et le moment où la personne réussit à atteindre le bouton panique. Bref, je n'entre pas dans les détails, mais je pense que tout le monde peut un peu s'imaginer. Donc, le modèle allemand des criminalisations tel qu'il se pratique en Allemagne, il ne donne pas les résultats escomptés et à preuve, ben, l'Allemagne est en train d'essayer de faire marche arrière parce qu'ils ont perdu le contrôle de ces 3000 bordels-là. Il y a un marché noir qui se développe. Il n'y a pas assez de femmes pour travailler dans les 3000 bordels. Bref, c'est pas rose là, avec la décriminalisation.
C'est assez malheureux même. Puis c'est étrange parce que justement, la déréglementalisation, la position qui vise pour légaliser la prostitution, axe son point sur le fait qu'il va avoir des protections, l'assurance chômage, l'assurance emploi, le fait qu'il va avoir vraiment un cadre, des mesures politiques pour encadrer la prostitution, puis que ça va être plus sécuritaire justement. Mais finalement, de ce que j'entends, ça n'a pas changé grand-chose en Allemagne, même que...
Mais c'est ça, c'est... Effectivement que c'est un projet qui est... ce sont des idées qui sont vraiment humanistes et défendables de vouloir s'assurer que les personnes prostituées aient accès aux mêmes protections et droits sociaux que tout le monde. Ça, évidemment, il n'y a personne pour contester ça. J'en suis moi aussi. Par contre, quand on regarde les preuves, quand on regarde les pays qui ont essayé ça... Ben, ça s'est pas matérialisé. Par exemple, aux Pays-Bas, qui est vraiment, lui, allé dans une légalisation, ben, il y a à peine 4% des personnes prostituées qui ont accès à ces protections sociales-là. Parce qu'il faut savoir que quand on est en situation de prostitution, pour une large proportion des femmes, notamment en Europe, ben souvent, il y a des questions de traite internationale, il y a des questions de visa qui sont pas obtenues. Donc, les femmes vont pas s'enregistrer comme travailleuses du sexe officiel. Elles ont des proxénètes, elles ont des trafiquants. Donc, c'est comme une bonne idée, mais qui ne s'est pas matérialisée sur le terrain. À peine 4% des travailleuses du sexe, comme ils les appellent, là, par exemple, dans les vitrines et dans le red light, sont des travailleuses officielles comme vous et moi. Donc, c'est extrêmement malheureux. Ça n'a pas fonctionné.
Ça, c'est dans quel pays que c'est légal puis qu'ils
Ça,
doivent s'enregistrer?
c'est aux Pays-Bas.
OK.
Aux Pays-Bas, notamment Amsterdam, hein, est très connu pour son red light, son quartier rouge, avec des femmes qui travaillent, qui sont exposées dans des vitrines et qui accueillent les clients dans les petites cabines, là.
Ah oui.
Alors, ben, ce modèle-là non plus n'a pas vraiment réussi, puisque c'est ça, les femmes ne sont toujours pas inscrites à l'assurance emploi, ils ne sont toujours pas bénéficiaires de droits sociaux, là, même si ce métier-là a été légalisé.
C'est surprenant parce que d'habitude, quand on légalise, ça vient diminuer le marché noir. On s'entend qu'on ne pourra jamais l'éliminer complètement, mais j'ai surprise, un seulement 4%.
Ouais, ben en fait, c'est pas parce qu'on légalise que le marché noir disparaît.
Non,
Puis
ça
des
c'est
fois,
vrai.
ben bien au contraire, hein, parce qu'en Allemagne, ce qui s'est produit, c'est que cette volonté d'encadrer un peu les bordels, bon, avant que l'État intervienne, il y avait une industrie derrière ça, il y avait des proxénètes, il y avait des fois des gangs criminalisés. Ben ces gens-là se sont pas dit, ah ben maintenant que c'est décriminalisé ou légalisé, on va changer de métier. Ils se sont dit, ben non, ben bien au contraire, maintenant on est légitime. Donc, ça reste que c'est quand même d'une forte proportion dirigé par les mêmes personnes qui dirigeaient ça avant et qui, là, des fois, vont offrir des services, des pratiques qui ne sont plus permises dans les bordels légaux. Donc, le marché noir n'a pas diminué. Et si on prend un parallèle que j'hésite souvent à faire parce qu'il On ne parle pas de la même chose quand on vend des substances que quand on vend des personnes et des services sexuels. Mais, par exemple, la légalisation du cannabis, ne serait-ce qu'au Canada, n'a pas mis fin au marché noir de la vente de certaines substances, là. Donc, ce n'est pas automatique, ce calcul entre légalisation et fin du marché noir.
Oui, ça a eu une diminution, je crois, quand même, quand on a
Ça
légalisé le
dépend.
marijuana.
Ça dépend. En matière de cannabis, de drogue, oui, mais visiblement, là, en matière de prostitution, ça s'est pas matérialisé en Allemagne, en tout cas.
C'est vraiment triste à savoir pour le cas de l'Allemagne. Puis, j'avais une amie qui me demandait, est-ce que vous avez déjà eu la critique? Que le fait de penser comme ça, parce que là, si je mets en contexte, dans le fond, la réglementarisation vise le libre choix, la liberté des femmes de choisir qu'est-ce qu'elles veulent faire de leur corps. Puis, si on vient parler de la pensée abolitionniste, bien, est-ce que ça pourrait être considéré comme paternaliste en disant que c'est pas vraiment le choix des femmes, c'est leur condition sociale, économique qui fait qu'ils vont aller dans cette direction-là?
Ah, je comprends tout à fait cette position-là. Et c'est pour ça que la plupart des abolitionnistes, en tout cas les néo-abolitionnistes, comme on aime bien maintenant s'appeler, jamais vont questionner le choix des femmes de vendre des services sexuels. Moi, beaucoup de femmes que j'ai connues quand j'étais sur le terrain comme intervenante avaient choisi ça. Puis pour toutes sortes de raisons, pour des raisons économiques, pour des raisons parfois d'avoir accès facilement et rapidement à des sommes, parce qu'elles avaient été peut-être leurrées par quelqu'un qui leur avait présenté. Bref, moi, jamais je ne questionne le choix des femmes. Oui, les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent avec leur corps. C'est juste que au nom de ça, moi, je ne veux pas qu'on passe d'un cadre législatif qui décriminalise le tout et qui, là, va faire en sorte que pour la proportion majoritaire, je pense, de femmes pour qui c'est pas une expérience satisfaisante de A à Z. Pour qui ça devient difficile de sortir, c'est très facile d'entrer en prostitution. C'est vraiment autre chose d'en sortir. Et parfois, ça laisse des conséquences. Donc moi, au nom de ça, je préfère un modèle législatif comme le nôtre, donc qui empêche pas celles qui veulent le faire de le pratiquer et qui prend un petit peu le pari que pour celles pour qui c'est pas satisfaisant, on va pouvoir les aider sans les criminaliser. Donc, c'est un peu ça le compromis, mais je comprends tout à fait l'idée, cette vision qu'on peut avoir de ce mode abolitionniste-là, de ce modèle suédois et de son ce que tu as appelé le paternaliste, là. Mais vraiment, l'idée n'est pas d'empêcher personne de faire quoi que ce soit avec son corps, mais plutôt de le voir en termes de qu'est-ce que je peux faire pour les plus vulnérables? Parce qu'en droit, il y a ça aussi, c'est que normalement, on veut légiférer, on veut adopter des lois pour protéger les personnes les plus vulnérables. Mm-hmm. Et en prostitution, je pense que les personnes les plus vulnérables sont celles qui ont été leurrées, trompées, qui veulent sortir, qui ne sont pas satisfaites. Donc, c'est pour elles que le modèle est conçu. Puis quand je dis que c'est le moins pire des modèles, c'est qu'au moins ils ne criminalisent pas celles qui choisissent de continuer à vendre des services sexuels. Ils leur mettent quelques bâtons dans les roues, là, j'en suis bien consciente, mais ils ne les empêchent pas de le faire.
Tout à fait, c'est vrai. Au contraire du prohibitionnisme, par exemple, qui lui...
Tout à fait. Là, tout le monde est criminalisé. Aux États-Unis, c'est comme ça. À part dans l'État du Nevada, c'est comme ça. Mmh. Tout le monde est criminalisé. Puis quand tout le monde est criminalisé, ce qu'on observe, c'est que c'est les femmes qui sont criminalisés le plus. Et ça, évidemment, personne ne veut ce modèle-là au Canada.
Oui, c'est clairement. Est-ce que c'est le cas de la Russie aussi?
Oh, je le sais pas. C'est une excellente question. Je ne connais pas la législation vigueur en Russie.
Il y a beaucoup de femmes, tu sais, qui sont... Ben là, on s'entend que c'est la faute du trafic humain aussi, mais qui sont justement trafiquées de la Russie pour venir dans les pays occidentaux pour faire de la prostitution. Mais je me demandais, c'est peut-être l'idée que là-bas, c'est pas légal, donc ils vont aller dans un pays où est-ce que c'est l'est, qui seront pas criminalisés pour vendre leur corps.
C'est très possible. J'en ai aucune idée, malheureusement.
Ouais. Donc, je regarderai par moi-même après, par curiosité. Mm-hmm. Mais
sinon, ben oui!
Il y a aussi la critique par rapport au fait que ça a toujours existé et que ça va toujours exister. Vous en mentionnez, tu le mentionnes d'ailleurs dans les livres que tu as co-écrits. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est quoi la conclusion de ça?
Ben, c'est qu'au nom de cette idée-là, ça serait comme de dire qu'il va toujours y avoir de la pauvreté, donc on ne va rien faire pour tenter de la diminuer. On va rien faire en matière de crise climatique parce que de toute façon, on s'en va dans le néant. Donc, moi, c'est un argument que je trouve assez défaitiste. Moi, j'aime bien justement qu'on poursuive des idéologies comme société puis qu'on vise plus haut parce que le passé aussi nous a donné plein d'exemples de luttes pour lesquelles on se disait, ben il y en aura toujours. Il y avait des gens au 19e siècle pour dire, ben les Blancs vont toujours avoir des esclaves noirs. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus d'esclavage au niveau mondial, on s'entend, mais il n'y a plus de système aux États-Unis où vous pouvez aller sur la place du marché et acheter un être humain. Donc, on a quand même appliqué de grands changements dans des choses qui, il y a des années, nous paraissaient complètement impossibles. Donc, moi, je pense que c'est une lutte qui est révolutionnaire, qui est très féministe, de vouloir dire un jour, il va y avoir une forme d'égalité entre les hommes et les femmes qui vont faire que les conditions matérielles des femmes vont faire en sorte que la proportion de femmes qui vont choisir de vendre des services sexuels va être radicalement diminuée, que s'il y a un petit pourcentage de femmes pour qui c'est un plaisir absolu et qu'elles vont continuer de le faire, j'ai aucun problème avec ça. Mais je pense qu'avant de se prononcer, moi, je milite pour une société où on va atteindre l'égalité matérielle entre les femmes et les hommes. Puis ce jour-là, je pense que la proportion de femmes qui vendent des services sexuels va être vraiment différente et on aura un autre genre de discussion.
Donc, ça passe par d'autres enjeux, si je comprends bien. Tu dis que tu milites pour aspirer à une égalité
Oui.
qui est matérielle, qui est économique entre les hommes et les femmes.
Mmh.
Donc, j'en
Oui.
comprends que c'est un système au complet qui crée la
Ah, mais
prostitution.
complètement, complètement. Puis souvent, même, on voit ça dans une espèce de continuum, c'est-à-dire que pour les gens qui voient la prostitution comme de ma manière, le courant dans lequel je m'inscris, pour nous, la prostitution fait quand même partie d'un continuum de violences qui sont faites aux femmes. Parce que qu'on pense à inceste, agression sexuelle, violence conjugale, exploitation sexuelle, c'est quand même un grand continuum de violences qui sont commises à l'endroit des femmes par les hommes. Et je pense que c'est avec cette lunette-là aussi qu'il faut voir la prostitution. Et il faut toujours se mettre en tête, pour moi, qui achète qui. Les hommes achètent à 90% des femmes. Oui, il y a une prostitution masculine et trans, et je suis vraiment pas en train de la nier, mais qui achète, ce sont les hommes. Pourquoi c'en est ainsi? Bon, il y aura peut-être des gens pour aller avec cette idée maintes fois défaite par la science que parce que les hommes ont une plus grande libido, ce qui est absolument faux. Et même si c'était vrai, est-ce que comme société, on veut vraiment qu'au nom de la libido masculine,
C'est
on
absurde.
sacrifie des femmes et qu'on organise des bordels pour que ces hommes-là puissent avoir accès à un soulagement de leur libido? Ben non, c'est pour moi, c'est une idée qui ne tient pas la route. Donc oui, tu as raison de le dire, que ça s'inscrit dans quelque chose de plus large, dans les rapports entre les femmes et les hommes, qui fait que la prostitution existe depuis trop longtemps.
C'est vraiment bien dit. En fait, merci beaucoup, Martine, d'avoir accepté de discuter avec moi aujourd'hui. J'ai vraiment aimé ce que tu nous as partagé. Puis la position pour laquelle tu milites est vraiment. Tu l'as bien décrit, c'est une belle position. Il y a encore espace à débat. On s'entend que, comme tu l'as dit, c'est pas tout le monde qui a la même position au Canada. Il y a différentes positions. Puis j'imagine qu'il y a des arguments qui se valent dans chacune d'elles. Tu en as nommé un peu. Mais merci d'avoir partagé ça aujourd'hui avec nous.
Ça a été vraiment un grand plaisir. Merci de m'avoir accueilli.
Sur ce, je te souhaite une très belle journée, puis j'inviterai tout le monde aussi à aller lire ton livre, parce que de ce que je peux voir, même moi, je vais m'y mettre. Je ne l'ai pas encore lu. J'ai lu que le résumé, mais j'ai très hâte de le lire.
Dédicacerai un exemplaire avec plaisir.
Merci.
Merci beaucoup.
Je monterai à Québec pour vrai, que tu le signes.
Parfait, merci.
De rien. Bonne journée, Martine.
Au revoir, merci.